La rédaction de Radio, au cœur de nos régions, à Bordeaux, Dauphine Moreau.
Bienvenue dans cette nouvelle édition de Radio à Bordeaux. Nous sommes le 9 mai et nous fêtons donc aujourd'hui l'Europe avec le premier épisode d'une série d'émissions réalisées par les centres Europe Direct de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec Radio Bordeaux. L'objectif de l'émission, sortir de la métropole pour faire parler l'Europe dans tous les territoires néo-aquitains. Pour rappel, les centres Europe Direct sont labellisés par l'Union européenne et constituent des intermédiaires entre les institutions européennes et les citoyens sur tout le territoire. Ce premier épisode vous est proposé par Dominique Bezol, directrice de la Maison de l'Europe du Lot-et-Garonne et responsable de l'Europe Direct Moyenne-Garonne. Et pour rester dans l'actualité, l'émission portera sur le joli mois de l'Europe, un rendez-vous présent sur tout le territoire national mais qui a vu le jour dans l'ancienne région Aquitaine. Pour en parler, Dominique Bezol reçoit Serge Rodriguez, responsable communication des fonds européens en Nouvelle-Aquitaine.
Bonjour, je suis Dominique Bezol, directrice de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne et responsable de l'Europe Direct Moyenne-Garonne. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Serge Rodriguez. Donc Serge, tu es responsable communication des fonds européens en Nouvelle-Aquitaine pour le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine sur le site de Bordeaux. Nous sommes aujourd'hui le 9 mai. C'est la date qui marque l'anniversaire de la déclaration historique de Robert Schuman en 1950, et qui est le fondement de ce qui est devenu aujourd'hui l'Union européenne. Compte tenu de l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine, la Journée de l'Europe 2022 est un moment encore plus important pour réaffirmer notre attachement à la paix, montrer notre unité et notre solidarité envers le peuple ukrainien et défendre les valeurs universelles de liberté et de démocratie. Serge, dans le cadre du joli mois de l'Europe, d'après toi, qu'est-ce que l'on peut faire pour mettre en avant les valeurs de l'Europe au quotidien?
Je pense tout d'abord qu'il était très important pour nous, on s'est posé la question, de maintenir le jeune monde de l'Europe dans son concept et dans son côté ludique et convivial. Et bien évidemment, le contexte dramatique actuel est à l'esprit de tout le monde, mais c'est l'occasion de rappeler l'attachement, en tout cas notre attachement, qui est l'attachement de l'institution, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, à toutes les valeurs européennes de liberté, de démocratie et évidemment de paix. Donc, on va le voir un peu plus tard, mais il y a des événements, des débats, et puis on aura par exemple sur le village de l'Europe, place Jean Jaurès à Bordeaux, le 6 mai, l'Ukraine en invité d'honneur sur le village. Et des multiples actions qui vont, en tout cas, humblement essayer de nous rappeler l'importance d'aider le peuple ukrainien et de rappeler les valeurs vraiment, de l'Europe, notamment les valeurs de paix.
Alors justement, nous sommes dans le cadre de cette interview là pour rappeler justement ce qu'est le joli mois de l'Europe. À l'époque, ce qui était l'Aquitaine était à l'origine du concept de ce qui est devenu aujourd'hui le joli mois de l'Europe. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept et nous rappeler en fait d'où est partie finalement cette idée et pourquoi cette envie en fait de passer d'une journée du 9 mai qui était la journée de l'Europe à finalement faire un mois festif surtout le mois de mai qui est devenu le joli mois de l'Europe.
On est plutôt fiers, voilà, tous les jours qu'on peut dire ça, mais d'avoir inventé un peu la fierté du joli mois de l'Europe, c'est surtout que ça a été repris par tous nos collègues des autres régions. La plupart des régions en France font un joli mois de l'Europe, c'est devenu le joli mois de l'Europe en France, qui est relayé par le niveau national, et on en a même parlé avec les collègues d'autres pays, et du coup, c'est le label EU in my region qui est repris dans de nombreux autres États membres en Europe à l'occasion du mois de mai. Pour le faire le plus simple possible, le 9 mai, pour la France en tout cas, tombe toujours, hein, c'est toujours un jour un peu compliqué, le mois de mai il y a les ponts, etc. Et puis comme ça, sur un one shot, sur une journée, qu'est-ce qu'on fait le 9 mai? C'était pas toujours simple d'un point de vue strictement logistique. Et un petit groupe, c'est la 14e édition cette année, à l'époque. Donc, on s'est dit, il y avait, je crois que c'est sur Strasbourg, une semaine de l'Europe. Il y avait déjà des choses un peu comme ça qui préfiguraient l'esprit. Et on s'est dit, allez, eh ben on va faire le joli mode Laura, on va faire un mois, et surtout, on va ouvrir à dire, en gros, c'est quoi ce joli mode Laura, un débat avec 10 personnes en café de pays, en Pyrénées-Montagne, eh ben, c'est un événement joli mode Laura. Quelque chose d'un peu plus technique, comme on va pouvoir le faire le 16 mai sur la coopération territoriale européenne avec des universitaires, des structures capables d'être sur des projets de coopération relativement complexes, hein, qui engagent plusieurs pays. Un groupe folklorique avec une association franco-portugaise dans un petit village, enfin un pique-nique européen. Enfin, tout ça contribue et participe à créer le joli mode de l'Europe. C'est-à-dire que c'est très ouvert, c'est une manière de parler de l'Europe à beaucoup de niveaux. On fait le 13 mai à Bordeaux, dans le tenir à l'hôtel de région, une simulation du Parlement européen avec des jeunes. Voilà, c'est tout ça, c'est de manière quand même très diverse. Il y a des concerts, il y a des animations, il y a des conférences. Participe à créer le joli mode de l'Europe. Et on s'est aperçu que ça a désinhibé peut-être un petit peu des petites structures associatives qui ne se seraient peut-être pas senties capables d'organiser quelque chose un peu comme ça à cette occasion-là. Et en fait, comme nous, on couvre un peu de tout avec la communication, des relations de presse, et puis quand même des objets promotionnels, le plus développement durable possible aussi qu'on offre aux organisateurs d'événements, et ben en fait, ça permet de structurer, d'avoir une visibilité, même pour des événements relativement petits, entre guillemets, mais qui peuvent avoir un écho dans la presse locale et qui sont relayés dans nos différentes actions de communication. Et puis surtout, c'est depuis ces années-là, un partenariat avec les Europes directes de l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Ce sera la 14e édition cette année.
Oui, effectivement, pour nous, en tant que structure, effectivement, qui développe des activités et des actions d'information sur les territoires, il est évident que le soutien que vous pouvez nous apporter au niveau du conseil régional en termes de communication, mais aussi tout effectivement les goodies que vous mettez à notre disposition pour tous ces événements sont vraiment fondamentaux, parce que on sait aussi que c'est ce qui va permettre un peu d'abord d'informer et évidemment d'avoir une petite gratification lors des concours que l'on peut organiser, d'attirer le public évidemment avec des petits cadeaux à gagner. Donc merci pour votre soutien à ce niveau qui est vraiment important. Et alors justement, pour tu disais que ce joli mois de l'Europe, c'est l'occasion effectivement pour des structures qui sont moins habituées à parler d'Europe, qui sont peut-être pourquoi pas des structures bénéficiaires de fonds européens. Comment peuvent-elles s'inscrire finalement dans cette dynamique du joli mois de l'Europe? Techniquement, que peuvent-elles faire pour s'inscrire dans cette dynamique? Et quel sera finalement l'avantage pour eux d'être dans l'ensemble des événements qui vont être mis en valeur pendant cette période-là?
Le moyen le plus simple, on a mis en place un système. Toute structure associative, toute personne qui veut faire un événement, va sur le site Joli Mois, tout à fait, c'est Joli Mois Europe-Nouvelle-6-Aquitaine.eu et peut inscrire son événement, proposer un événement, et avec le lieu, est-ce que c'est ouvert au public ou pas, comment ça se passe, etc. Donc, tout ça est très, très simple d'accès. Nous, évidemment, on essaye d'inciter tous les porteurs de projets qui sont soutenus par l'Union européenne en Nouvelle-Aquitaine à faire des portes ouvertes, à créer un événement. On a d'ores et déjà dépassé les 120 événements inscrits cette année, qu'on peut retrouver sur le site, hein, Europe en Nouvelle-Aquitaine, sans aucun souci également. On sort de deux ans un peu compliqués, hein, évidemment, où on avait beaucoup plus d'événements en digital, avec des visios, etc. Là, je crois que tout le monde est très heureux de pouvoir se retrouver en présentiel. L'intérêt pour les structures qui organisent ces événements, c'est encore une fois que nous, on a quand même une force de communication au niveau du conseil régional. Chaque année, la campagne de communication avec le joli mois de l'Europe a quand même un impact autant en termes de relations de presse, etc., des publicités sur les événements qui est important. Et c'est l'esprit de mutualiser, c'est-à-dire que chacun de manière isolée n'aurait peut-être pas cet impact. Tous ensemble, on fait le joli mot de l'Europe qui permet vraiment de sensibiliser, de discuter, d'échanger, de parler d'Europe.
Tu me confirmes que n'importe quelle structure qui aujourd'hui est bénéficiaire de fonds et envie de finalement valoriser l'action qu'elle mène grâce à ces fonds peut s'inscrire sur l'Open Agenda et donc simplement en fait elle a juste à se rendre sur le site du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, d'aller sur l'Open l'Europe en Nouvelle-Aquitaine. Elle va sur l'Open Agenda et elle peut inscrire librement son événement. Ok.
Et oui, ce que tu disais, oui, évidemment, tous les porteurs de projets soutenus du meilleur neuf par l'Union européenne et par les fonds européens peuvent, à l'occasion du Mouvement de l'Europe, valoriser, rappeler qu'ils sont soutenus ou faire une journée porte ouverte, ou mener une action et inscrire leur événement au programme du Mouvement de l'Europe.
Justement, le Conseil régional organise lui-même des actions, des événements tout au long de ce mois de mai. Est-ce que tu peux justement nous expliquer ce que vous allez organiser et ce que vous souhaitez mettre en valeur finalement pendant tout ce mois?
Oui, alors,
et comment y participer?
Oui, bien sûr. Alors, il y a vraiment un événement qui est très important pour nous, qui est la simulation du Parlement européen, hein, 13 mai, mais... Il y a déjà plus d'une centaine d'élèves, plusieurs lycées, de Gironde, de la Vienne, de Dordogne.
De Lot-et-Garonne aussi.
Ouais, de Sèvres, oui aussi. Donc ces jeunes pourront venir là, découvrir le conseil régional à Bordeaux avec en séance la plénière et vont, le temps d'une journée, être là, un jeu de rôle, être dans la peau des députés européens le temps d'une journée, avec se réunir en commission le matin, discuter le texte, et l'après-midi en plénière. Là, on sera sur le thème cette année, sur l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme. Donc là, c'est très concret et ce sera autour de ça qu'ils vont être amenés à discuter. Et ils auront, alors, vous avez vu, notre conseillère régionale déléguée aux affaires européennes sera présente pour ouvrir cette journée. Et puis, nous aurons Laurence Faringue, députée européenne également, qui sera présente. Et peut-être à confirmer, Madame la rectrice. Donc voilà, on est très heureux d'organiser cette journée.
Par rapport à cette journée, je me permets de préciser justement pour peut-être les auditeurs qui nous écoutent que c'est quelque chose qui existe depuis maintenant 3 ans que l'on fait ensemble, donc les Maisons de l'Europe, les Europe dit le Conseil régional et l'association Europhile qui chapeaute finalement la dernière journée qui est celle de la simulation. Mais effectivement, c'est une journée qui est ouverte à tous les jeunes, qu'ils soient en établissement scolaire ou non. Le rôle des Europe Direct ou des Maisons de l'Europe dans cet événement-là, c'est d'accompagner et de former les jeunes à ce qu'est en fait une simulation du Parlement européen. Donc, on leur apprend à travailler sur les directives en amont de cette journée qui va être la journée de simulation et donc de les mettre en condition d'eurodéputés. Donc, c'est vraiment un jeu de rôle qui est très, très intéressant pour les jeunes puisque on dit souvent que l'Europe est quand même lointaine, qu'on ne comprend pas comment elle fonctionne. C'est vraiment l'occasion par ces jeux-là, en fait, de mieux comprendre le fonctionnement de nos institutions et justement de pouvoir se projeter en tant que jeune dans ce que vivent nos eurodéputés et quel est leur rôle lorsqu'ils sont tant en commission que lorsqu'ils doivent débattre lors du sommet en fait. Donc c'est vraiment important de pouvoir se projeter en tant que jeune, je pense, et c'est grâce à vous, Conseil régional, qui avait qui nous avait sollicité tant aux structures qui accompagnent que Europhile qui chapeaute cette dernière journée, que cette action peut être mise en place.
C'est vrai que on l'avait initié dès les premières éditions, c'est vrai qu'on a un peu mieux structuré avec vous et grâce à vous, avec les Europes directes, les zones d'Europe de l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, qui font un gros travail de fond, hein, d'identifier et de préparer les zones avant cette simulation. Et puis, et le rôle de Eurofil, hein, c'est un partenariat qui fonctionne bien. Et puis, moi, j'ai souvenir d'une jeune qui, après avoir participé à une simulation du Parlement, ben, elle savait voilà, qu'elle voulait devenir assistante parlementaire et elle a fini par le devenir. Comme quoi.
Oui, ça peut en plus créer des vocations, c'est merveilleux.
Oui, tout à fait.
Et donc, cette action, on a compris qu'elle était déjà fermée au public puisqu'elle est, voilà, elle est déjà complète, on va dire.
Oui,
au niveau
oui.
des actions accessibles que vous mettez en place, il y a des concours,
Oui, bien sûr. Alors, on a toujours hein, sur Jolimois, Europe, Nouvelle-Aquitaine.eu, on a deux concours, n'hésitez vraiment pas à participer. C'est très simple, très ludique. Et puis, il y a des lots sympas aussi à gagner. On a évidemment le 16 mai également au conseil régional un séminaire sur la coopération territoriale européenne. Alors, quand on parle de ça, c'est quoi? Par exemple, c'est tous les projets qu'on mène depuis de nombreuses années au niveau transfrontalier avec nos amis espagnols. Et il y a une vraie multiplicité de projets très intéressants, que ce soit sur la santé de part et d'autre de la frontière, la formation, beaucoup de choses, le transport, qui sont réalisés depuis des années. Et là, ben, c'est comment participer au futur programme, hein, puisque ça continue. Il y a toujours des programmes de ce type-là, de coopération. Donc, tous ceux qui s'intéressent sont les bienvenus, évidemment, les 16 mai. On participera à l'invitation de la Maison de l'Europe, Bordeaux-Aquitaine, au village de l'Europe, le 6, le vendredi 6, hein, de l'après-midi jusqu'à 22h, avec des animations, un peu de musique. C'est très grand public, alors là, voilà, venez nombreux sur ce village européen. Mais là, au-delà de ces trois événements un peu bordelais, enfin, on a une multiplicité d'actions sur l'ensemble du territoire. Mais là, c'était un peu voilà, ceux sur lesquels on est un peu plus à la manœuvre, entre guillemets, en tant que conseil régional.
Alors justement, si moi je suis, je fais partie du public et j'ai envie de savoir ce qui se passe à côté de chez moi. J'habite en Lot-et-Garonne, en Dordogne, dans les Landes, dans n'importe quel département de Nouvelle-Aquitaine. Comment est-ce que je fais pour savoir quels sont les événements qui se trouvent à côté de chez moi et auxquels je peux me rendre?
Ben, toujours pareil, très simple, hein, sur Jolimois Europe, Nouvelle-Aquitaine. On retrouve l'agenda qui est mis à jour en temps réel. Hein. N'importe quel nouvel événement là, qui serait inscrit ce matin, là, actuellement, se retrouvera sur l'agenda. Donc on retrouve tous les événements, on peut les sélectionner de manière soit géographique, soit par date.
Bon, mais ça c'est une information très utile, je pense, pour tous nos auditeurs. Alors j'en profite Serge parce que voilà, tu travailles donc au conseil régional et donc tu es responsable communication sur les fonds finalement européens. Alors on entend quand même souvent dire que beaucoup de structures aimeraient pouvoir bénéficier de fonds européens pour monter un projet, mais que finalement, c'est quand même très complexe de monter un dossier. C'est une usine à gaz, c'est quand même ce qui se dit fréquemment. Alors, vous concrètement, est-ce que vous aidez, vous pouvez aider un porteur de projet ou qu'est-ce qu'un éventuel porteur de projet peut faire pour se faire aider et s'il est dans un projet qui peut bénéficier de fonds structurels, comment peut-il faire pour justement outrepasser cette idée de ce n'est pas accessible pour moi, c'est trop compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut leur dire, qu'est-ce que tu peux leur dire pour les rassurer et permettre effectivement peut-être à certaines structures qui ne sont pas des grosses structures de se dire que c'est aussi fait pour eux.
Oui, bien sûr. Après, je pense que, comme tu le dis, on a une image, mais je pense que c'est plus une image hein, de complexité. On est enfin, dans l'idée qu'il faut tout d'abord avoir un projet. Je crois que ce qu'il faut dire aux gens, c'est ça. C'est que, quelle que soit la structure, une grosse structure, une petite structure associative, etc., Il faut à la base avoir un projet. L'idée, c'est pas de dire, tiens, je vais voir si je prends pour moi. Il faut d'abord avoir un projet. Et on peut aussi être heureux sans fonds européens. Il y a aussi des aides du Conseil à l'image, hors fonds européens, qui existent pour tout un tas de projets. Mais ce qu'on a fait pour aller vraiment au plus simple et rassurer les gens, ce qu'on a fait, c'est que sur le site Europe en Nouvelle-Aquitaine, nous, on s'est dit, plutôt que de mettre beaucoup d'informations complexes, évidemment, on la retrouve, hein, on a privilégié un contact très rapide. C'est-à-dire que dès la page d'accueil, sur le site Europe en Nouvelle-Aquitaine, il y a un petit pavé en WebRack, contact pour mon projet. Et là, en trois questions, je suis une association, je suis dans mon projet plutôt sur la thématique insertion ou mobilité internationale, quel que soit, et le département, pour savoir, trois questions. Et puis, on a tout de suite une liste de contacts sur cette thématique et sur ce projet possible. Et là, on redemande quand même quelques lignes d'explication du projet. On peut poser la question de dire, voilà, moi j'ai un projet, je suis une asso, j'ai un projet sur cet sujet, je suis à tel endroit. Et ben on va très vite trouver un contact à qui on peut envoyer un mail. Et nous, toutes les équipes au niveau du conseil régional, répondre à ces questions. Et en fait, on peut difficilement imaginer plus simple. Et effectivement, ça va complètement à l'inverse de tous les gens qui disent c'est super compliqué, etc. Alors évidemment, tout ne rentre pas dans les cases, tout le monde ne peut pas bénéficier du système. Enfin, pour résumer peut-être, pour donner des exemples, on a aidé une association qui ne présente pas que sur le dire, mais Zéro Mégot, hein, qui installe du mobilier urbain pour recycler les mégots de cigarettes et qu'on ne retrouve pas un caniveau dans les villes. On les a aidés à recruter quelqu'un. En fait, l'aide que l'Europe a apportée, c'est au niveau de c'est une structure d'économie sociale et solidaire. On a aidé à embaucher une chargée de mission pendant 2 ans pour structurer et travailler le projet. Ça a été la manière de les aider. On aide une multiplicité de projets au niveau du développement local rural sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, que ce soit des services à la personne, des bibliothèques, on aide aussi des maisons de santé. Enfin, quand on parle de déserts médicaux, l'Europe intervient sur la quasi-totalité des maisons de santé de la Nouvelle-Aquitaine, on a été soutenu par des fonds européens, et ça permet à des territoires où c'est compliqué d'avoir accès aux soins, aux médecins, aux kinés, de répondre à ces besoins. On a, par exemple, avec le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, on a aidé la moitié des conchyliculteurs de Nouvelle-Aquitaine ont été soutenus avec des fonds européens, que ce soit pour créer un groupement d'employeurs pour faciliter la réponse aux coups de bourre qu'ils peuvent avoir dans ce métier-là, pour embaucher des gens. On a des investissements sur pour fabriquer de la glace sur les ports, pour faire de la vente directe par les pêcheurs. On a des projets évidemment de recherche qui sont très importants aussi. On soutient la recherche, par exemple, un savoir-faire historique qui devient aussi des outils de pointe avec la porcelaine et tout ce qui peut tourner autour de ces sujets en Limousin. Il y a vraiment des choses très 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 pointues. Et voilà, comment ce savoir-faire historique est aussi aujourd'hui une vraie opportunité sur les matériaux de pointe. Un bateau électrosolaire à Saintes, le Bernard Palissy, qui permet de faire moins de bruit, moins de vagues, moins de ranger les poissons, et puis aussi un vrai outils de développement économique, touristique, local, avec le propriétaire Pascal Duc, qui a vraiment porté ce projet à bout de bras, de transformer un bateau avec une énergie qui ne connaît pas de CO2. Enfin, voilà, on est beaucoup aussi sur des projets de préservation de la biodiversité, avec des associations comme Ligado, du comptage, vérifier que la réintroduction de tel ou tel poisson, la propreté des rivières fonctionne bien. Alors, on est sur des dizaines de milliers de projets et on a géré 2,5 milliards de fonds européens de 2014 à 2020. Ça situe à peu près, et vous retrouvez des exemples sur le site. Mais je pense que pour en terminer là-dessus, n'importe qui emprunte une somme presque ridicule à sa banque, monte un dossier, attend d'avoir une réponse. Et ben, nous, dans un délai administratif, quelqu'un qui a un dossier qui tient la route, on sélectionne des dossiers, des projets tous les 3-4 mois. Donc voilà, ben, c'est un temps, si tout est OK, on peut avoir voir son projet programmé, en tant que cas, retenu par l'instance de sélection partenariale, puisque le conseil régional, avec l'ensemble des partenaires régionaux, on a un partenariat avec des centaines de structures, on ne peut pas ça comme ça, tout fait, notre coin, sélectionne des projets très régulièrement. Tous les 3-4 mois, il y a des opportunités d'avoir son projet examiné.
Ok, ben merci pour cet éclairage qui, je pense, va certainement donner des idées à certains de nos auditeurs. Moi, ce que je retiens, c'est évidemment, encore une fois, aller naviguer sur le site du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine pour voir quelles sont les aides disponibles en fonction du projet que l'on porte et que l'on souhaite développer. Et c'est aussi la diversité des thématiques hein, sur lesquelles vous pouvez apporter un soutien. Et là encore, je pense que cela peut donner des idées à des auditeurs qui finalement ne se sentaient pas automatiquement concernés, mais qui peuvent avoir un projet finalement qui rentre dans le cadre de ces aides. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous promener sur le site du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine qui donne finalement énormément d'informations